bonjour.
Attends, bonjour à tous.
Est-ce qu'on nous entend?
On nous entend, j'ai pas l'impression.
Si, si, on nous entend. Il suffit de monter le son dans ton casque aussi. Mais on nous entend pas très fort. Bonjour. Alors, il est vrai qu'on reprend après les vacances. Ouh, c'est vrai qu'on nous entend pas beaucoup sur
Dossier. J'ai le son à fond, on n'entend rien.
Allô? Allô? Oui, là, on nous entend. Là,
ouais, un petit peu.
Là, c'est bon. Et tu
moi,
peux monter
peux
un peu
dire,
le mix,
là.
Il faut savoir que, du coup, c'est, c'est plus moi qui gère le son. Donc, j'ai laissé cette mission à Émilie.
Si c'est la cata, c'est pas de ma faute.
Bah, un petit peu, mais... on est là, du coup, à la rentrée, après une bonne pause de 6 mois.
6 mois au moins, ouais.
Depuis le début du confinement.
Finalement. Ouais, depuis mars, à peu près. On est là, on va discuter, on est tous masqués. Parce que
on va devoir crier pour parler.
Ouais, c'est mes oreilles, ça.
On n'est pas au bal. Au bal masqué.
Oui, oui, je vais baisser le son dans mon casque.
Vous avez compris, au bal masqué.
Oui.
Ta gueule.
Bois ton verre d'eau avec ton masque, là.
Et on va commencer cette... On va reprendre, du coup, toutes les 2 semaines, à
oui,
peu près.
Vrai, toutes les 2 semaines, en plus, on aura du temps pour nous.
Toutes les 2 semaines, ouais, ça va être un peu plus light que l'année dernière.
Pour bien préparer l'alconos à chaque fois.
Ah, c'est ça, c'est quand que j'ai fini de préparer. Bon, il y a 10 minutes. Et bah, déjà, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances, tous les deux?
Ouais. J'ai taffé.
J'ai pas eu de vacances.
La majorité, j'ai taffé. J'ai eu 2 semaines de vacances, mais c'était des bonnes vacances quand même.
Et depuis le temps, ça va. Comment s'est passé votre confinement? Même si maintenant ça remonte.
Alors, j'étais tout seul. J'ai fait une pseudo-dépression après le confinement, mais sinon tout va bien.
Imhotep. T'es pas le seul, PTDR.
Salut papa, salut maman, si vous passez par là.
Coucou. J'ai pris 20 kilos.
On vous aime, bisous.
Et aujourd'hui, du coup, on va commencer. On va reprendre le.
Au bal masqué.
Le programme des émissions.
On ne peut pas s'arrêter. Ohé.
On va reprendre le programme habituel en commençant par les actualités avec que du fun, que du joyeux.
Comme toujours.
Comme d'hab, ouais, que du fun. Ouais.
On va enchaîner avec des chroniques avec que du fun, que du joyeux.
Comme d'hab.
Et on va terminer avec des coups de cœur avec que du fun, que du joyeux.
Un peu plus quand même.
Ouais, il y a plus de quoi rigoler dans le.
Dans les coups de cœur.
Dans les coups de cœur, on va bien s'amuser. Et du coup, en termes d'actualité, bon, on va peut-être te laisser commencer, Émilie.
C'est toujours à moi qu'on file les tâches ingrates.
Écoute, voilà.
Voilà. Du coup, moi, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé à Beyrouth il y a un moment maintenant. C'était début août, donc le mardi 4. Donc, ce qui s'est passé, en gros, c'est que en fin d'après-midi, dans la zone du port de Beyrouth, qui est donc la capitale du Liban, il y a eu une grosse explosion qui a eu lieu. Donc toute la zone près du port a été ravagée. On est déjà pas au niveau du... Il y a le souffle d'explosion qui a été ressenti jusque l'île de Chypre, qui était donc à plus de 200 km de là. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont été projetées, que ce soit des portes, des bâtiments, un peu tout et n'importe quoi. L'explosion était tellement forte en fait qu'elle a été enregistrée par les appareils sismiques et c'est très rare visiblement que la terre tremble autant suite à une explosion quoi. Ouais. Donc cette explosion elle a été causée par du nitrate d'ammonium qui était stocké donc en grande quantité dans le hangar numéro 12 du port et donc il y aurait 2750 tonnes qui auraient explosé. Donc à la base c'est une substance qui est facilement explosive lorsqu'elle est proche d'une source de chaleur. On l'utilise en général comme engrais pour faire pousser plus vite les plantes, etc. Ça ressemble à des espèces de granulés de sel blanc sans odeur. Et donc là il y a plusieurs questions qui se sont posées vis-à-vis de comment ça se fait en fait que 2750 tonnes de cette matière-là étaient stockées pas loin. De feux d'artifice, il me semble qu'il y avait, ouais, il y avait un entrepôt de feux d'artifice à côté. Super fun. Normalement, dans la loi, c'est écrit que... il me semble qu'il y a des réglementations comme quoi ça doit être éloigné en fait, de tout liquide inflammable, comme de l'essence par exemple. Et là, donc, ça faisait 6 ans, sans mesure de précaution, que c'était stocké dans un des hangars. Et visiblement, c'était un bateau qui allait de Géorgie au Mozambique, qui s'appelait le Rosus, qui avait déposé ça là.
Et c'est qui était détenu par un Russe.
Alors justement, avec... on ne sait pas trop pourquoi ce bateau-là a déposé ça là, en fait.
D'après ce que j'avais lu pour l'histoire, en fait, c'est il l'avait fait étiqueté en Moldavie parce que comme ça, il évite les contrôles. Mm-hmm. Et sauf qu'en fait, le bateau était dégueulasse, enfin en mauvais état. Du coup, il a eu un blème.
Oui,
du coup, il s'est posé à Beyrouth. Et bah, du coup, ils se sont fait contrôler. Ils se sont rendus compte, bah tiens, ton bateau, il n'est pas en état PTDR. Et du coup, ils l'ont arrêté. L'équipage est resté plusieurs mois à l'intérieur du bateau parce qu'il ne pouvait pas en sortir.
Ouais, moi, j'avais lu qu'il y avait une mutinerie.
Et le russe, il s'est déclaré en banqueroute ou un truc comme ça. Et comme ça, lui, il a récupéré de la thune des assurances. Et démerdez-vous l'équipage.
Super la joie. Dans tous les cas, il y a eu plus de 190 morts et plus de 6500 blessés. Alors, les raisons potentielles, du coup, c'est que... Alors, on avait l'entrepôt de feux d'artifice qui était à côté, des installations de stockage de pétrole, de stockage de produits chimiques, de nitrates, visiblement, qui n'étaient pas très loin. Ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est assez compliqué de faire exploser, en fait, cette substance avec de la chaleur. Donc, il y en a qui parleraient d'incendie, d'attentat, mais ça a été contredit par le gouvernement libanais, visiblement. Il y a des histoires de corruption aussi qui tournent autour du port avec les autorités qui, visiblement, sont considérées comme une des institutions les plus corrompues du Liban. On ne sait pas si la cargaison était au cœur d'un trafic de contrebande ou pas, si l'explosion était accidentelle ou d'origine criminelle, s'il y a des responsables assez importants qui sont en lien avec ça. Il y a des sources qui disent que l'incendie initial serait dû à des travaux de soudage. Et les travaux de soudage, en fait, auraient été initiés à la base pour protéger, en fait, justement, ces produits-là. Et du coup, c'est assez ironique, quoi.
Oui. Et il faut aussi préciser que juste à côté de l'explosion, il y avait plusieurs silos à grains qui détenait 85% des réserves de blé et de grains du Liban. Donc, il y a une famine qui se prépare. Voilà.
Ouais. Le pays était déjà bien dans la merde économiquement, socialement et tout ça. Quoi.
Bah, comme Émilie l'a dit, il y a énormément de corruption à cet endroit-là. Ouais. Et il y a des révoltes depuis un moment. Quoi, qui sont
j'ai
là...
une petite liste des conséquences. Alors, de base, en fait, les hôpitaux ils étaient complètement surbookés à cause du Covid. À ce moment-là, il y avait 5000 cas dans le pays et il y avait 100 nouveaux cas par jour. En plus, c'était dans la période de l'Aïd, donc il y avait plein de violations de distance physique qui avaient été reportées, visiblement 555 dans ces eaux-là. Il y avait des files d'attente de gens blessés pour aller à l'hôpital dehors, en fait. Donc on pouvait voir sur les vidéos, vraiment, les gens les attendaient en mode « ben les gars, j'aimerais bien me faire soigner, quoi ». Et comme les gens ont perdu l'ouïe et qu'il y avait l'odeur de brûlé, en fait, retrouver les gens a été assez compliqué parce que d'un côté, on avait les gens qui n'arrivaient pas à entendre, en fait, les secours. Et les chiens n'arrivaient pas à sentir, justement, les personnes qui étaient sous les décombres à cause de cette odeur-là. Il y a 300 000 personnes qui sont sans logement. Et donc, oui, effectivement, le pays était en crise. Il y avait des manifestations en automne dernier après des pénuries d'électricité, d'essence. Il y a le chômage qui est en hausse, de l'inflation. Le pays est endetté. Il y a une récession économique depuis 2018. Et visiblement, plus de la moitié du pays vit sous le seuil de pauvreté actuellement. Donc, je ne parle même pas des dégâts matériels. Hein. Il y a plus de 640 bâtiments historiques qui ont été touchés. Il faudrait 300 millions de dollars selon l'UNESCO pour tout reconstruire. Enfin bref, c'était une cata quoi.
Un beau bordel en effet.
Ouais, voilà voilà.
Et je crois qu'Yvan, tu vas nous parler encore de morts.
Ouais, mais quand même, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur Beyrouth parce que tu t'as cité du coup les 300 000 personnes sans logement aujourd'hui. Mm. Pour comparer, je crois, Beyrouth en fait c'est genre 380 000 habitants à tout péter.
Ouais, dans le rayon d'explosion, il y a genre 70%
comme dit,
des personnes qui ont perdu leur logement.
Beyrouth, d'ici quelques années, ça va devenir une ville fantôme. Hein, donc, parce que je pense que c'est... Bon, il n'y a pas tout qui est détruit non plus, il ne faut pas partir dans l'excès. Mais déjà, toute la zone autour de l'explosion, comme dit... Ça
ouais, mais en général, quand tu habites dans une ville où tu vois qu'il y a une explosion comme ça, bah, tu as quand même envie de te barrer un peu de la ville. Quoi.
Après, tu n'as pas forcément le choix. Mais je vous invite à aller regarder un article du Monde qui a une belle vidéo... Enfin, une belle vidéo... C'est drôle, il y a des morts. Non, c'est faux. Une vidéo très complète qui montre le avant-après en expliquant tout bien, en fait.
Et même, on peut trouver plein de trucs là-dessus. C'est que, bon, déjà, il y a les mauvais côtés. Où, par exemple, déjà, sur les réseaux sociaux, il y a le FC raciste qui s'est réveillé.
Il y a le FC complotiste aussi.
Oui, mais par exemple, il y a Macron qui avait posté d'abord un tweet en français pour montrer son soutien au Liban, qui ensuite a mis le même tweet traduit en arabe, je crois, ou un truc dans le genre.
En libanais.
En libanais, oui. C'est, oui. En fait, sous ce tweet-là, il y a tout le FC raciste qui était en mode « Ouais, mais pourquoi vous parlez en libanais? On est en France, il faut parler français et tout. » Alors que c'était juste un copier-coller du précédent tweet qui était fait en français.
Non, mais t'as vraiment cru que les racistes étaient intelligents?
Ah ben c'est non.
Voilà.
Bon après, j'avais vu un truc du comment s'appelle le je sais plus comment ça s'appelle sur une chaîne de reportage sur YouTube qui avait présenté une petite vidéo qui montrait au-delà des sauvetages d'humains qui c'était des associations qui se mobilisaient pour sauver les animaux justement qui étaient également enfin qui sont finalement aussi victimes de l'accident qui s'est produit. Et je sais que moi ça fait déjà quelques semaines maintenant, mais au moment où j'ai regardé la vidéo, il y avait genre des centaines d'animaux qui avaient été retrouvés. Point positif, 90% à peu près d'eux avaient déjà retrouvé leur maître. Donc c'est pas mal.
Et notre très cher président est quand même allé sur place en mode non, mais il faut que vous fassiez des réformes. Si vous ne faites pas des réformes,
oui,
ça
bon,
ne va
là,
pas.
C'est...
Il n'a pas été juste pour dire je peux vous aider si vous voulez, ciao les gars.
Voilà.
Je crois qu'il n'a pas compris que le Liban n'est plus une colonie française en fait.
Ouais, j'ai pas compris non plus pourquoi la France était autant impliquée de ce que j'avais vu
en fait,
par rapport aux autres pays.
C'était une colonie, je crois, ou un truc comme ça.
Ouais.
Ou un territoire genre type style Algérie ou un délire dans le genre. Je crois pas aussi puissant que l'Algérie, mais il y a un délire comme avec l'Algérie.
Ouais, et pour info, du coup, au Liban, ils parlent arabe et anglais, c'est les langues officielles. Mm. Voilà, voilà.
Ok, ouais. Bah, du coup, tu vas nous parler de mort ?
Lequel ?
Les deux.
Ah, les deux à la suite ?
Ouais.
Très bien. Donc, maintenant, je vais continuer sur les tragédies, comme dit. Je vais tout d'abord vous parler donc, de Chadwick Boseman. Je ne sais pas si je prononce bien, j'espère. Qui est décédé donc, ce 28 août 2020 à Los Angeles à l'âge de 43 ans et qui était atteint d'un cancer du côlon qui était diagnostiqué en 2016, déjà au troisième stade. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, il est principalement connu grâce à son rôle de Black Panther. Hein, donc... qui a été d'abord découvert en 2016 dans Captain America Civil War et qui a été mis à l'honneur ensuite en 2018 donc dans le film éponyme Black Panther, qui vient bien évidemment du Marvel Cinematic Universe, ou le MCU, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois.
Je crois pas, je suis pas
sûr. Non, je pense que t'en as pas parlé assez, Yvon.
Donc, rapidement, donc Chadwick Boseman, il a été découvert tout d'abord dans le film... Enfin, c'était pas son premier film, mais le film où il a été le plus mis en avant, c'est le film 42, qui est sorti en 2013. Donc rapidement, qui retrace le parcours de Jackie Robinson, donc une légende du baseball dans lequel il possède le rôle principal. Donc c'est comme dit, grâce à ce rôle que les réalisateurs du film Black Panther l'ont découvert et qui lui permis d'avoir le premier rôle du film. Pour certains, la mort de Chadwick Boseman, c'est pas une mort incroyable non plus. Enfin, je sais pas comment le dire parce que c'est horrible comment je le dis, mais bon.
C'est pas la mort la plus grave.
Ouais, voilà, c'est pas ça. Mais comme dit, donc cette personne, c'était quand même l'un des icônes du MCU. Donc pour plusieurs raisons. Déjà, tout d'abord, rien que le fait que ce soit un des seuls acteurs noirs du MCU qui soit connu. Les seuls que je connais, c'est les amis de Tony Stark. Je sais plus comment ils s'appellent. T'as War Machine, et je crois qu'en fait l'ancien War Machine aussi qui a été remplacé.
Ouais, c'est ça.
Et après, t'as quoi ? T'as peut-être le personnage d'Antor. J'ai oublié tous les noms, c'est horrible.
Écoute,
le
moi,
protecteur
pas vu
de Bifrost.
Bon,
j'ai vu que.
Enfin, bref. Mais après, c'est aussi donc, le premier donc, homme noir, plutôt personne noire, à avoir son premier film en solo dans le MCU.
Qui était quand même vachement badass. Hein.
Qui était, oui. Justement, je crois, qui fait partie des films les plus appréciés, donc déjà par la communauté fan du MCU, et même pour ceux qui n'étaient pas adeptes du MCU. Donc,
moi, j'aime pas les Marvel et les trucs comme ça, mais Black Panther, j'avais adoré.
Comme dit, ouais, c'est un des plus gros cartons de toute la série Marvel. Et après, donc forcément, étant donné l'importance du personnage de Black Panther dans le MCU et donc de l'implication de Chadwick Boseman dans ce rôle-là, étant donné qu'il c'est vraiment lui qui a marqué le coup avec ce rôle, Il y a plein de questions qui sont vues poser par rapport à l'avenir déjà de la série Black Panther dans le MCU, sachant qu'il y a déjà un film qui est prévu pour 2022 ensuite, en tant que suite du premier film. Mais donc il y a eu plein de questions sur est-ce qu'il fallait annuler la série alors que c'est un des plus gros cartons, ce qui a fait gagner plus d'argent à Disney, à Marvel. Est-ce qu'il fallait simplement remplacer l'acteur ? Oui.
J'ai envie de dire, ils ont quand même réussi à faire revenir la princesse Leila alors qu'elle était crevée depuis 2 ans. Donc bon,
oui, mais
c'est Disney, hein, c'est bon. Hein.
Oui, mais bon, quand même.
C'est Disney.
Oui, mais là, la différence, c'est que là, si on fait un film Black Panther, ça le met en avant durant tout le film, alors que Leila, elle avait seulement quelques scènes. Quoi. Donc,
c'est Disney,
termes de
ils
temps
ont les moyens.
Et d'argent,
c'est Disney.
Oui, mais en termes de temps et d'argent, ça prendrait beaucoup. Enfin, s'ils devaient faire le film en modélisant en 3D tout le film, le personnage principal, ils perdraient beaucoup plus de temps. Ils sortiraient pas en 2022.
Tu prends juste une personne, une autre personne, c'est tout. T'en fous de modéliser ou pas.
Mais je pense que ça va être ça. Ils vont remplacer l'acteur.
Oui, mais du coup, justement, c'est ça le problème. C'est que Chadwick Boseman, il a tellement marqué le coup que pour remplacer l'acteur pour les fans de la série. C'est presque impossible en fait. Ou alors il faudrait vraiment faire un petit bordel.
C'est dans quelle série qu'ils avaient complètement dégagé des acteurs ? C'est pas dans The Good Place que tu avais des acteurs qui avaient complètement été changés d'une saison à l'autre à un moment ?
Les acteurs principaux, non.
Non.
Ils ont toujours été là tout le long et c'est vachement bien.
Dans certaines séries comme ça, genre ils s'en battent les couilles, c'est des persos principaux, ils les échangent en fait.
Bah. Ça m'étonne
pas. Pas trop de séries là-dessus, mais.
Bah, War Machine, tu l'as dit avant.
War Machine, ouais, c'est le seul cas que j'ai en tête. Et après, il y a Hulk, mais bon, ça c'est différent.
Ah bon, il a changé ?
Le premier film, il était un peu. Voilà quoi.
C'est toujours le même qui joue maintenant ?
L'incroyable Hulk et les nouveaux, non, c'est pas le même. Mais après, c'est toujours le même. C'est toujours. Je sais plus comment il s'appelle non plus. Putain, je le connais.
Buffalo, non ?
Mark Ruffalo.
Mark Ruffalo, qui est un très bon acteur, que j'aime beaucoup.
Qui est un très bon acteur, effectivement. J'ai pas vu mon texte. Je voulais chercher le titre, enfin le nom, et du coup, maintenant. Bref, mais du coup, il y a déjà quelques idées qui ont été sorties pour remplacer l'acteur. Parce que forcément, ils vont pas annuler la série. Donc, tu as déjà. Je vais faire une sorte de crack scénaristique. Donc, en utilisant principalement le multiverse, qui a déjà été un peu abordé dans Spider-Man Far From Home. Et qui, au passage, sera un peu plus exploré dans Doctor Strange 2, qui sortira également prochainement. D'ici quelques années.
Il va en rester juste en face de ton micro comme ça. Là.
Pardon.
Voilà, nickel.
Mais sinon, je vois plus mon texte.
Tu le mets devant toi.
Il y a une autre idée qui a été grandement considérée, surtout par les fans, pas vraiment par les réalisateurs, c'est de remplacer donc T'Challa, le nom du personnage de Black Panther dans les films, par sa sœur Shuri, qui est sa sœur, donc voilà, qui donc si ils mettent en scène la mort du héros donc dans les films MCU. Pourrait potentiellement prendre sa place en tant qu'héritière légitime du trône, étant donné que c'est sa sœur. Donc, ce qui permettrait au passage d'obtenir une version féminine de Black Panther, qui est donc une idée assez plausible quand on sait que donc, les réalisateurs des films, des films Marvel, ils mettent de plus en plus l'accent sur des super-héroïnes. Super-héroïnes, mais pas de S.
C'est de la super drogue.
Et ça fait maintenant plusieurs années qui sont là-dessus. Donc les principales que j'ai pu noter, donc il y a Pepper Potts qui prendra potentiellement le rôle de Rescue en tant que Iron Girl ou Iron Woman si vous préférez. Il y a Gamora et Nebula, Valkyrie, donc des personnages de Thor, Captain Marvel qui a déjà eu son film et Black Widow qui aura bientôt son film à lui qui sort normalement en novembre. Et après il y a Wanda, donc qu'on a découvert dans Avengers l'ère d'Ultron, qui aura sa série sur Disney. J'ai les nerfs.
C'est bien, tu donnes des noms, mais ni l'un ni l'autre, ça nous parle.
C'est pas grave, ça, c'est surtout pour ceux qui connaissent. Au pire, vous chercherez, il mettra des liens.
Est-ce qu'on a vraiment envie de chercher ? Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre des liens ?
Mais enfin, voilà, donc, c'est, comme dit, c'est, pour certains, c'est une mort, entre guillemets, avec 28 guillemets, énigmatique. Non, pas énigmatique, qu'est-ce que je dis ? J'ai oublié le mot.
Pas si grave.
Pas si grave, oui, bon, c'est pas grave. J'oublie tous mes mots, je stresse. Calmez-vous là.
C'est pour pas la deuxième fois qu'on dit une mort pas si grave.
Si.
Y a pas pour moi, il n'y a pas de gravité dans la mort de base.
Les 28 guillemets.
Ouais.
Oui, mais je veux dire, c'est.
Anecdotique, pardon. C'est ça voilà. que je cherchais. Mais c'est pour ça que je précise avec 26 milliards de guillemets. Mais pour d'autres, ça a été quand même un déchirement au cœur de savoir qu'il est parti et qu'on le retrouvera jamais. Voilà. J'en fais partie de ces gens.
Et la deuxième personne qui est décédée ?
La deuxième personne qui est décédée cette fois-ci le 27 août 2020, qui n'a rien à voir avec le MCU cette fois-ci. donc c'est
heureusement, parce que sinon on aurait pour 20 minutes.
Donc c'est Ebru Timtik, pareil, j'espère que je prononce bien le nom, qui est décédé le 27 août 2020 à Istanbul, suite à une grève de la faim qui a duré 238 jours quand même. Donc, pour présenter donc, cette femme, donc, c'est une avocate turque qui a été membre de l'association des avocats progressistes, qui a un nom en je sais pas quelle langue, mais c'est un bordel, j'arriverai pas à le prononcer.
Bah, en turc, non.
En turc, sûrement, oui. Non, mais calmez-vous. Je suis fatigué. Hein.
Ouais.
Donc, cette association, qui est une association d'avocats, qui a été accusée par les autorités turques d'être liée au parti Front révolutionnaire de la libération du peuple.
N'oubliez pas que la Turquie est une dictature.
Je ne sais pas c'est quoi le terme exact du régime politique qui est en Russie.
Une dictature.
Oh. Je vais vérifier.
Donc, le parti Front révolutionnaire de libération du peuple, qui est une organisation d'extrême gauche turque d'idéologie marxiste, léniniste, oui. Placé sur la liste officielle des organisations terroristes donc des États-Unis, de l'Union européenne, du Canada, de la Turquie et du Royaume-Uni, quand même. Donc c'est pas cool d'être lié à ça quand même. A priori, ils n'étaient pas liés à ça, mais c'est pas cool.
Bah, tu sais, à partir du moment où tu es un opposant politique et trop lié à un groupe terroriste, c'est vraiment, ils t'arrêtent.
Voilà, hein. C'est plus simple pour faire des
reproches. Ou même juste un opposant politique et t'arrête.
Voilà.
Coucou la France.
Donc, c'est en juin 2019. Qu'elle et sept autres avocats de l'association ont été arrêtés. Donc le 15 octobre suivant, soit plusieurs mois après, elle a été condamnée à 13 ans et 6 mois de prison. Mais il y a eu quand même quelques embrouilles par rapport au procès, parce qu'il est considéré que l'équité et la crédibilité de ce procès, ils ont été, enfin, sont contestables pour le motif d'appartenance à une organisation terroriste. Et donc, bon... J'ai pas tout compris dans ce procès, mais
c'est un procès politique.
Ils ont douillé pour faire en sorte qu'ils prennent le plus cher, quoi.
Oui, bah c'est un procès politique, quoi.
Et donc, elle a tenté de faire appel, mais la procédure, elle a été rejetée le même mois, donc autant dire qu'ils s'en foutaient un peu, quoi. Donc, c'est en février 2020 qu'elle débute une grève de la faim avec plusieurs autres avocats. Du fait de l'absence de toute perspective de révision de la décision prise plusieurs mois plus tôt. Donc pendant plus de 7 mois, quand même, elle a consommé que de l'eau sucrée, des infusions et des vitamines. Et ce qui l'amènera en juillet donc, de la même année à ne peser qu'une trentaine de kilos. Et ça, donc, malgré cela, sa libération elle est toujours refusée, même si un rapport médical a été fait sur elle. En décrivant que son état de santé était clairement pas compatible,
ah, 30 et même kilos,
ne lui permettait pas en fait d'être en détention, quoi.
Donc, et pendant ce temps-là, t'as Balkany qui sort pour ces mêmes raisons.
Ouais, mais lui, il a de la, ouais, mais lui, il a de la thune. Il est pas, c'est pas forcément de l'argent propre, mais
c'est Balkany point.
Mais c'est, ouais, bref. Donc elle est, donc sa libération est refusée, mais elle est juste transférée donc à l'hôpital Sadi Konuk, j'espère que je le prononce toujours bien, d'Istanbul. Donc le 11 août 2020, il y a plusieurs conférences de presse qui ont été organisées dans le monde pour tenter de faire pression sur les autorités turques, en alertant l'opinion publique internationale. Et un appel a même été lancé donc le 12 août par plusieurs organisations d'avocats, afin de relayer leur inquiétude pour ces autres avocats grévistes de la fin de février. La fin FIM, hein, toujours. Et donc c'est finalement le 27 août 2020 que Ebru Timtik est décédé, donc après 238 jours de grève de la faim. Donc ce qui a au passage soulevé forcément une vague d'indignation, notamment au sein de l'opposition russe, turque.
Pardon. Ouais, ça fait deux fois qu'on dit russe.
C'est la même connerie, donc bon, ça, ouais. C'est les mêmes.
Même donc, régime, voilà. De merde.
Un sujet que je maîtrise, ouais, beaucoup moins, par contre, j'avoue.
Ouais. C'est pas grave. Bah, moi, je vais vous parler un petit peu du Covid.
Waouh!
On va s'amuser, on va rigoler. Bah, on a 6 mois de retard, donc il y a eu beaucoup d'informations depuis la dernière fois. Il y a eu un confinement, il y a eu des vacances.
Ce qui s'appelle l'école, entre guillemets. Je sais pas si vous connaissez.
Guillemets.
Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai regardé les chiffres hier soir.
C'est pas Jojo.
Il y a 22 écoles et une centaine de classes qui sont déjà fermées.
Qui sont dans quel coin de la France, du coup ?
Partout. Il y en a une. Y en a...
Parce que
ça, c'est déjà fin de la semaine.
Non, Paris, il y en a dans le sud et il y en a une à Ilkirch, je crois. C'est l'école d'Ilkirch, elle est fermée.
Genre, moi, à Metz, les gens, ils m'ont dit qu'ils n'avaient même pas besoin de porter des masques dans la rue, alors qu'ici, tout est obligatoire tout le temps, en permanence.
Ah, mais on va en parler. Ouais, on va en parler, ça va être rigolo.
On va faire une émission sur la Cono, juste sur le Covid.
Oui, bon, on va éviter, parce qu'on a quand même des actus joyeuses après. Mais yes. Du coup, le Bas-Rhin est maintenant en zone rouge, donc un quart des départements français est en zone rouge pour transmission du virus, donc c'est rigolo. Donc c'est pour ça qu'on porte des masques, hein, parce que je fais chier tout le monde.
Oui, merci Jules.
Il y a aussi un raccourcissement de la quatorzaine, puisque maintenant la quatorzaine ne fait plus que 8 jours. Non mais on a discuté avec le virus, on lui a dit « s'il te plaît, raccourcis ton temps », il nous a répondu non, mais on le fait quand même, nique sa mère.
Ça c'est complètement con.
Oui, mais t'as vraiment cru que le gouvernement gérait bien la situation. Il y a aussi le tribunal administratif de Strasbourg et de Lyon qui ont assoupli les règles du port du masque après l'appel d'un praticien et de l'asso, les essentialistes Auvergne-Rhône-Alpes.
Les essentialistes Auvergne-Rhône-Alpes.
Et en fait, leur truc, ils disaient « Non, mais on ne va pas porter... » Ça ne m'étonnerait pas. Non, on va en parler après. C'est le Puy du Fou, ça. Pardon.
Ah, le Puy du Fou, yes.
Et ce qu'ils disaient, en gros, c'est « Non, mais on ne va pas porter un masque toute la journée. Le soir ou dans les zones où il n'y a pas grand monde, ça ne sert à rien de porter un masque. » Bah oui, mais au pire, tu le portes quand même plutôt qu'on ait une carte à retenir et que les gens ne le portent pas. Tu le portes partout et tu ne casses pas les couilles. Putain. Et le Conseil d'État devait se prononcer et je crois que je ne sais pas.
Pour l'instant, c'est obligatoire partout à Strasbourg et dans les environs. Hein.
Bah, non, actuellement, le tribunal il a dit l'inverse. Le tribunal administratif a dit non, ça va changer.
Genre, il n'y a même pas 5 jours, c'est devenu complètement obligatoire partout.
On est con, cherche pas.
Non, mais je crois qu'il y a un délire comme quoi il y a. Je sais plus.
J'ai juste cherché en vitesse, mais.
Parce que moi, je me souviens même.
Mais après, apparemment, il y a eu des problèmes sur la législation qui font que. Je sais plus.
Moi, ce que je trouve débile, c'est que genre les gens en trottinette, en vélo, normalement, ils n'ont pas besoin d'en porter parce que c'est dans l'exercice d'un sport, alors que les gens qui font de la marche rapide ou quoi.
Après, bah, ouais.
Genre, c'est vraiment. De base, je ne comprends pas trop comment ils ont fait leur truc.
Et du coup, j'ai l'info. Le Conseil d'État a validé la possibilité de porter un masque de partout. Donc, le masque est toujours obligatoire.
En fait, ce que j'aime bien, c'est que. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais on est vraiment dans la seconde vague, mais on dirait que l'épidémie elle vient à peine de repasser en mode tout va bien quoi.
Non mais les gens sont cons. Je te rappelle qu'il y a les gens. Non mais je ne vois pas de maladie. Pour moi, ça ne sert à rien de mettre le masque, on nous ment.
Le problème c'est que ces gens qui sont cons, bah, ils sont au pouvoir.
Oui. Non mais les gens qui sont au pouvoir veulent de la thune, parce que citons notre ministre du travail. L'important avec l'école, c'est que les parents puissent travailler.
Oui. J'ai vu ça, j'étais là en mode hop, putain. L'école sert
uniquement à permettre aux parents de travailler. Hein.
Donc on est quand même passé de, il y a quelques mois, non, il est important que les enfants retournent à l'école pour qu'ils puissent apprendre et pour que les enfants en difficulté puissent continuer d'apprendre. Maintenant, c'est les parents doivent travailler. Bah, merci de ne plus te cacher.
Moi, à côté de ça, j'avais regardé un reportage sur la Finlande où les profs étaient là en mode, si on veut apprendre des choses aux enfants, c'est pour qu'ils développent leurs capacités et surtout qu'ils soient heureux. Et j'étais là en mode... What the fuck, j'avais oublié que l'école ça servait à ça.
Bah non, mais le truc c'est
qu'on jamais servi à ça ici.
En Italie, ils ont embauché 80 000 personnes, ils ont mis des cloisons amovibles, ils ont réduit des classes. En France, on est 35 dans une classe.
En France, c'est on a réduit le nombre de tables et de chaises pour respecter la distanciation, mais il y a toujours le même nombre d'élèves.
Ouais.
Bon, on remet les tables.
Ouais, j'ai vu le même tweet. Putain de merde. Ah non, mais c'est le bordel.
Franchement, on a de la chance de vivre en France, mais putain, qu'est-ce qu'on est dans un pays de merde, quoi.
Bah, on n'a pas de la chance d'avoir Macron au pouvoir. Et aussi, il y a eu quelques assouplissements de règles aussi, par exemple pour des matchs de rugby. Et pour. Ah, c'est le parc d'attractions préféré des royalistes. Vive les Vendéens, le Puy du Fou.
Là,
parce que de 9000 à 15000 autorisés.
Bah, sérieux ?
Non, je sais pas, je dis ça comme ça, mais ça m'étonnerait pas.
Donc, ça m'étonnerait pas non plus.
Le Puy du Fou organise en été quelque chose qui s'appelle la Cinécénie. Qui est une représentation historique. Bon, historique, je pense que même Papy Bourré te raconterait ça mieux. Disons que les pauvres Vendéens royalistes et les méchants révolutionnaires, c'est les Vendéens, quoi. coucou, les Vendéens, on n'aime pas les royalistes.
Il l'a dit, hein.
Oui, j'assume. J'y étais au Puy du Fou, j'ai vu les spectacles, hein.
D'ailleurs, c'est vrai que leurs bénévoles, enfin, c'est des bénévoles.
Dans la ciné-ciné, c'est des bénévoles.
Okay, ouais, c'est ce que je me disais.
Il y a juste genre quelques personnes qui sont payées, mais le reste, c'est des bénévoles. Ouais. Et donc, en fait, il y avait des règles qui disaient interdiction des rassemblements de plus de 4000 ou 5000 personnes. Déjà, c'est énorme.
Ouais.
Donc, bah, déjà, pendant le confinement, ou juste après le confinement, alors que tout était fermé, De Villiers a passé un coup de fil à Macron et a pu rouvrir, alors que tout le reste était fermé.
Surtout qu'il y a tous les concerts qui ont été annulés, absolument tout, quoi, toutes les fêtes, les machins, et puis et tu vois que ça, c'est un peu ouvert, quoi. Du coup, il y a plein de gens qui disent qu'il va y avoir un Hellfest du fou, que tu vas voir les vieilles charrues du fou.
Mais non, moi j'annonce quelque chose. Hein. Le Puy du Fou, c'est un super endroit historique. On apprend le développement de la peste. Pardon. Et donc, en fait, la ciné-saignée a été autorisée le soir du 15 août, donc de mon anniversaire, à faire 9000 personnes dans des gradins.
Wouhou !
Pour ton anniversaire, on t'a offert une épidémie, lol.
PTDR.
Moi, je veux la mort de Tim Tick. Chacun son truc.
Et voilà. Et donc, voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, à part que c'est la merde et qu'on vous en reparlera de toute façon dans deux semaines si on n'est pas déjà reconfinés. Bisous. Et j'ai une autre chose à vous raconter aussi, la Biélorussie, mais j'ai pas grand chose à dire. Mais en gros, pour résumer, il y a un connard qui s'est fait réélire pour la 6e fois en Biélorussie, il s'appelle Alexandre Loukachenko.
On ne fait pas de jugement de valeur, on ne sait pas si c'est vraiment un connard ou pas.
C'est un dictateur. Donc c'est un connard.
T'as la mafia russe.
Il est peut-être gentil au fond, il aime peut-être les animaux.
Je m'en bats les couilles. Ouais, non, mais tu sais, franchement. Ben Laden, il n'était pas si méchant. Il a dansé une fois Poker Face de Lady Gaga.
Wow, sérieux ?
Oui, j'ai vu la vidéo.
Oh, faut que je vois ça.
C'est pas un deepfake ?
Non, non. Et ça ressort bien l'argument. Non, mais tu sais, il était pas si méchant. Le tueur, regarde, il était en train d'effacer une statue avant. Allez, va bouffer tes morts. Il a buté deux personnes et qui finit en tôle. Oui, Black Lives Matter, on pourrait aussi en parler, mais...
On n'a pas du tout pensé à ça.
Non,
il faudrait en faire une chronique complète.
On en parlera la prochaine fois. Tu t'en occupes, Yvan ?
Oula.
Tu t'en occupes, Émilie ?
En chronique ?
Ouais.
Non, on
pourrait débat, ça va être chaud, mais ouais, je peux.
On peut faire un débat partagé ?
Ouais. T'as et moi, je parlerai de Zelda.
On est encore en plein dedans, c'est comme le Covid.
Oui.
J'aime vraiment de comparer ce mouvement au Covid. Excusez-moi, j'ai pas voulu dire ça. Tu couperas ça en montage, merde, on est en live.
et du coup, voilà. Et donc, ça fait un mois qu'il y a des gens, des manifestants dans toute la rue, où il y a 100 000 personnes dans la rue ce week-end, ce dimanche. Et il y a eu 650 manifestants arrêtés. N'oublions pas que c'est une dictature contrôlée par la Russie. Voilà. Et du coup, tu veux parler, toi, il reste encore Obono.
Attends, ouais. Je devais encore parler de quelque chose, moi.
Donc, c'est bon. Et du coup, tu vas nous parler de Obono.
Yvan, t'es le meilleur. Alors, moi, ça va être assez rapide aussi. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que donc on a Valeur Actuelle, qui est un magazine qui est
de
assez...
merde. Merci. Je n'ai plus rien à foutre.
C'est vrai que c'est bien de la merde.
Il va débarquer bientôt, il va être en pleurs déjà.
J'ai un mégaphone, je m'en branle.
Donc en fait, ce petit magazine Valeurs Actuelles avait fait visiblement des sagas fiction estivales dans lesquelles des personnalités voyageaient dans le temps. Et donc là, il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'ils ont fait, c'est que en fait, ils ont fait un récit de 7 pages sur la députée insoumise Danielle Obono. Et en fait, c'est un récit sur la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage. Donc, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit que les personnes qui étaient responsables de l'esclavage étaient les personnes qui étaient esclaves elles-mêmes.
J'ai le droit de faire un point Godwin ?
Oui, tu peux.
De toute façon, les Juifs, ils l'ont cherché à la Seconde Guerre mondiale. C'est faux ! Je ne le pense pas. C'est de l'humour très, 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 très noir, d'accord ? Je ne le pense pas. Mais c'est le même niveau de débilité. Hein,
Que t'as eu chaud.
Putain, mais ta gueule.
Ah non, mais là, fin, c'est... En fait...
On peut rire de tout, mais sans partir dans l'excès, bien entendu. Hein. C'est pas parce qu'on peut rire de tout que tu peux traiter n'importe qui de sale... Voilà, j'irai pas plus loin.
Ouais, donc en fait, là, ce qu'il disait, c'était que les ancêtres subsahariens et arabes des personnes dont Daniel Obono défend l'égalité des droits aujourd'hui, ce seraient eux les vrais coupables de la mise en esclavage des Africains. Et du coup, les Français chrétiens du XVIIIe siècle auraient été des vrais résistants anti-esclavagistes. Donc c'est vraiment en fait un retournement... c'est une espèce de... de trucs contre l'antiracisme, du révisionnisme, du suprématisme français. Oh là là, les blancs, c'est les meilleurs.
Franchement, j'ai envie de dire...
Oui. C'est juste la merde, en fait.
Franchement, j'ai envie de dire, Éric Zemmour, bah, il a raison, et... De toute façon, c'est voilà.
Alors justement, Obono, quand elle a parlé de ce truc-là qui lui a été fait, elle a parlé de zémourisme. Je ne sais plus ce qu'elle a utilisé comme mot exactement. Je l'ai là normalement. De la zémourisation de l'espace médiatique. Voilà. Donc maintenant, on peut parler de zémourisation de l'espace médiatique.
C'est beau, zémourisation. On dirait pas que c'est un mot qui fait référence à un putain de gros con.
Ouais. D'ailleurs, je suis tombée sur un bouquin d'Alain Finkielkraut l'autre jour dans un magasin et j'étais là en mode waouh. Waouh, il écrit des trucs aussi, il peut pas que parler.
Non, il est philosophe, PTDR.
Ouais, puis.
J'ai pas la ref, moi.
Taisez-vous.
Ah, c'est taisez-vous, oui.
C'est quoi
ça? Et le jette-toi dans le canal, Finkiel! Jette-toi dans le canal!
Bon, ça, j'ai complètement raté.
Et vous voulez notre blague? Voilà, Valeurs Actuelles et tout ça, ils font des. C'est un magazine de merde et tout ça. Sachant qu'ils ont quand même fait une série d'articles aussi sur Tahabouaf qui est en vacances avec Assa Traoré. Genre, ils ont fait tout un article en mode « Oh mon Dieu, regardez, ils sont en vacances
!»
Et il s'est pris une campagne de harcèlement dans la gueule après. Et devinez qui est le nouveau responsable du service politique de Europe 1. Un ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. C'est même pas une blague. J'ai envie de mourir. Pardon, tu disais.
Il est sympa, lui, non?
Non, il était chez Valeurs Actuelles, mec.
D'accord.
Tu sais, c'est comme un mec qui portait une croix gammée sur l'épaule. Il est pas sympa.
Mais non, c'est un svastika chinois.
Indien.
Non, je sais plus de c'est un svastika.
C'est indien.
C'est indien?
Oui.
C'est pas indien.
Si, c'est indien.
Non, c'est en Chine.
Non, c'est indien.
C'était pas en Chine.
Et du coup, tu disais, Emily, pardon, on t'a coupé la parole.
En fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est que non seulement ils ont sali une femme de couleur, entre guillemets, mais ils ont aussi sali une parlementaire qui fait bien son travail, qui est assidue, etc. Et bah là, dans l'article de Libération que j'avais lu, c'était carrément un collectif qui avait écrit l'article. Et bah en fait, ils étaient complètement dégoûtés parce que ça salissait l'idée même du journalisme. Mmh. Et eux, bah, ça les dégoûtait complètement, quoi. Et ce qu'ils disaient aussi, c'était que la violence qu'on a infligée en fait, à Danielle Obono, bah, elle-même ne pourrait pas l'infliger aux personnes de Valeurs Actuelles parce qu'en fait, c'est tellement fort ce qu'ils ont utilisé comme image que... genre, en fait, le fait même de ne pas pouvoir avoir de... Pouvoir les attaquer sur le
de contre-argument, ouais.
Ou juste, tu sais, si tu voulais juste faire une attaque vraiment qui soit mesquine, entre guillemets, tu pourrais même pas faire la même chose, en fait. Et rien que ça, bah, en fait, juste tu te rends compte qu'il y a un souci niveau racisme et compagnie, quoi. Et du coup, il y a eu beaucoup de réactions. Donc, suite à ça, il y a des gens de Valeurs Actuelles qui ont commencé à s'excuser, etc. Notamment le directeur adjoint de la rédaction, en mode « Si je l'avais en face de moi aujourd'hui, je lui dirais pardon, je suis désolée de vous avoir blessé. » En assurant que le journal n'était pas raciste. L'objectif était de faire une fiction certes complexe, certes tirée par les cheveux, peut-être malvenue, peut-être malaisante, mais jamais malveillante et jamais méchante. Sur BFM TV, il avait dit ça. Il y a Macron qui l'avait appelé. Et puis ensuite, il y a eu différents soutiens, notamment de Mélenchon, Benoît Hamon, Corbière, Cécile Duflot, Olivier Faure. Il y a eu Richard Ferrand aussi, Jean Castex et Dupond-Moretti aussi. C'est pas ce qu'il fout là, mais il est toujours là. Il y a eu des manifs, du coup, là, samedi 5 septembre, en fin d'après-midi, sur le parvis du Trocadéro. Et donc, si j'ai bien compris, normalement, elle va porter plainte.
Je crois qu'elle l'a porté plainte.
Ouais. Elle sera défendue par Raquel Garrido et Xavier Sauvigny, visiblement. Voilà, voilà.
Et moi, je voudrais juste signaler quelque chose aussi. Le film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, sort dans 2 semaines, normalement.
Est-ce qu'il y a des avant-premières dans le coin ou pas ?
Il y avait une avant-première il y a 2 semaines.
Bordel de merde, j'ai raté ça.
Avec Gaspard Glantz, David Dufresne et je ne sais plus qui. Je crois qu'il y avait Taha. Non, je sais plus, il y avait pas Taha. Mais voilà, il y avait pas mal de gens. Et c'est l'heure de la pause musicale, les enfants. On va s'amuser un peu.
Enfin, un peu de bonheur.
Ouais, de ouf. Et on vous dit rendez-vous juste après.
Rendez-vous dans 2 semaines.
On va écouter We'll Meet Again de The Fat Rat et Laura Brem. À tout de suite. Attends, c'est là. Il faut que je fasse ça. Il faut qu'on monte la musique, qu'on nous coupe.
On est de retour. C'était un peu la galère niveau son, mais c'est pas grave. C'est la rentrée. Voilà. Et du coup, c'est moi qui vais faire une chronique aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis moins fort qu'avant. Non, je dis de la merde. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un truc très très drôle. Alors, il faut savoir que déjà, je suis un énorme fan de Nintendo. Je crois que ça ne t'était pas encore remarqué. C'est
non,
bon,
ça ne se voit pas, Jules.
J'ai pas un t-shirt Mario pour une fois. Et du coup, on a pas eu de Nintendo Direct important depuis le 3. Là où tu as PlayStation qui ont annoncé leur console, Xbox qui ont annoncé leur console, bah Nintendo, ils sont toujours en mode on annonce que dalle. Il y a eu des rumeurs il y a quelques. Bah, c'était à peu près en avril, non ? C'était en juin, un truc comme ça. Non, c'était en avril, où une personne a annoncé un Nintendo Direct qui a eu lieu effectivement la semaine d'après. L'arrivée d'un nouveau Paper Mario qui est arrivé 2 mois après et l'arrivée d'une compile de 3 Mario importants. Et la semaine dernière, ça a popé sur YouTube sans annonce.
Ouais.
J'étais en train de me promener, il y a un pote qui me fait « Oh putain, Mario Battle Royale !» Je fais « Mais pourquoi tu me parles ?» Il y a eu un direct sur ma... « Mais putain, pile le jour où je vais me promener, bordel de merde !» Du coup, je l'ai regardé en rentrant chez moi. Et du coup, ils ont annoncé pas mal de choses pour les 35 ans de Mario. Alors, n'oublions pas que l'année prochaine, c'est les 35 ans de Zelda. Voilà, je dis juste ça.
Je dis juste qu'il va de nouveau perdre 50 balles.
Ouais, non mais attends.
Plus
mais...
que 50 balles cette fois.
Là, j'ai perdu que 50 balles parce que je suis un minimum raisonnable. Mais voilà. Ils ont annoncé quelques trucs sympatoches. Déjà, ils ont annoncé une Game & Watch Mario, sur lequel tu as le premier Mario. Donc, il nous aura
Zary.
Il
va nous refaire une Game & Watch.
Bah, si tu veux la regarder, la tête de la boîte sur mon écran, elle est sublime. Et il y a dessus, du coup, Mario. Il y a une horloge. Mario The Lost Levels. Et un mini-jeu... d'une vieille Game & Watch.
Je vais rechercher l'intrus.
Le prix est de 50 balles. Donc pour un objet de Nintendo, c'est pas cher. Pour un objet avec deux jeux dedans, ça fait chier.
Ouais, mais c'est Game & Watch, c'est trop
d'habitude,
bien.
Un jeu, c'est plus cher sans la console.
Ouais, mais t'as qu'un jeu. Mais de toute façon, l'objet est très beau et ça peut être parfaitement un objet de collection, en fait, juste pour ça. Et ça va être fait en quantité limitée, bien sûr. Et aussi, truc à dire, de toute façon, j'annonce, 3 semaines après la sortie, il sera hacké et on aura Doom dessus. Ensuite, ils ont annoncé... Ils sont retournés, ils ont fait « Et les mecs, il nous manque un Mario 3D, qu'est-ce qu'on fait ?»« Et vas-y, qu'est-ce qu'il y a sur la Wii U ?» Bah du coup, ils nous ont sorti Super Mario 3D. Ils vont nous sortir Super Mario 3D World, qui sortira en 2021, qui s'appelle Super Mario 3D World plus Bowser Fury, qui va être en gros le jeu qui est sorti sur Wii U, qui était pas si mal, mais qui avait pas les mêmes...
Il était pas méga ouf non plus, quoi.
Bah, il était bien, il était vraiment potable, mais il avait pas la même envie que Mario Galaxy. Quand tu sors de Mario Galaxy avec une très bonne histoire, beaucoup de planètes, des environnements riches.
T'avais un jeu qui avait été vraiment construit et l'autre qui a juste été fait pour faire de la thune. En fait.
Même pas celui-là. En fait, quand tu regardes par rapport au précédent, c'était Super Mario 3D Land sur 3DS qui était vraiment nul à chier.
Moi, j'ai bien aimé.
Non, il était nul à chier.
Mais Yvan, t'as pas de goût.
Si, si. Et là, Super Mario 3D World était potable et c'était surtout fun en multijoueur. J'y ai joué avec des potes, c'était vraiment très très fun. Le jeu est pas forcément, il a pas forcément la même envie que Mario Galaxy, mais ça reste, tu passes un bon moment. Ça reste un bon moment et le jeu est très long parce que déjà tu as énormément de choses et surtout à la fin, tu as vraiment genre littéralement 2 ou 3 mondes bonus avec que tu débloques au fur et à mesure que tu fais le 100%. Donc le jeu a une très bonne durée de vie, il est très complet et très bon. Il gardait uniquement le local à l'époque. Et là, pour la nouveauté, ils ont annoncé qu'ils allaient ajouter un mode en ligne. Donc, tu vas pouvoir jouer en multi en ligne, donc ce qui n'est pas trop mal, en payant la thune Nintendo, bien sûr. Et qu'il y a un mode Bowser Fury. On ne sait pas ce que c'est. Mais moi, je pense soit à un mode supplémentaire complètement difficile, soit un mode contre la montre ou un DR dans le genre.
Ouais, dans chaque niveau, un truc en plus.
Ce qui pourrait être sympatoche. Mais je serais quand même bien content d'un mode supplémentaire.
Ouais.
Ensuite, il y a eu un Battle Royale Mario. En fait, t'as Nintendo qui ont fait « Eh vas-y les mecs, PTDR, on fait un Battle Royale avec Tetris !» Ça a marché. Et ils ont fait « Eh vas-y, PTDR, on fait un Battle Royale avec Super Mario !» Ça s'appelle Super Mario 35, ça sort le 1er octobre et c'est gratuit pour les détenteurs de l'abonnement Nintendo Switch Online.
Oh là là, il va y avoir des morts.
Et l'idée, le principe, c'est que tu dois avancer dans un niveau de Super Mario Bros. 1, enfin Super Mario Bros, quoi, celui sur NES, et qu'à chaque fois que tu butes un ennemi, il finit sur l'écran des ennemis. Genre que tu butes un Goomba et finis sur l'écran d'un autre joueur.
Oh là là, oh la vache.
Et en fait, tu regardes le trailer, c'est une orgie le truc. Et c'est
du contre-la-montre en fait, faut aller vraiment le plus vite possible.
Non, faut être le dernier survivant en fait, faut juste survivre.
Oui, mais ou être si le tu dernier bats tous les monstres en premier, t'auras ça chez les autres plus rapidement aussi.
Mais c'est comme sur Mario, c'est comme sur Tetris, tu peux viser les meilleurs joueurs.
Ah, c'est encore pire.
Voilà. Et quand tu regardes l'interface du jeu, tu dis ouais, mais en fait, ils ont repris l'interface de Tetris 99. Et c'est pas faux, mais ils ont trouvé la machine à pognon et la machine à tu files des jeux gratos avec ton abonnement. Et pourquoi pas, après tout, ça peut être sympa. Mais il faut savoir que le jeu est disponible que jusqu'au 31 mars 2021. Donc ça veut dire que si tu veux y jouer, tu y joues avant, parce qu'après, il sera plus dispo. Je pense qu'ils vont nous le sortir en vendant.
Super.
Après, il y a le truc fun qui va me faire dépenser 100 balles.
Ah.
Tu te souviens, le putain de Day One? Disons que ils ont réussi à nous mettre Mario Kart dans la vraie vie. Ça s'appelle Mario Kart Live Home Circuit.
Oh non.
C'est une petite voiture avec une caméra dessus.
Oh non.
Et tu joues depuis ta Switch dans ton salon. T'as une voiture télécommandée qui bouge. Et en fait, tu auras les ennemis, les objets et tout ça en réalité
ciao
augmentée sur ta Switch.
Bah, tu te pars aussi.
Ça vaut 100 balles. Ça sortira mi-octobre. Niveau exemplaire en France, il y en aura 45 000, je crois. De ce que j'avais vu, 45 000.
C'est pas beaucoup, dis donc.
Bon, c'est pas beaucoup, mais pour un objet à 100 balles, ça va, quoi.
Ouais, bah, que ça fait...
Parle dans ton micro.
Ouais.
Et sachant qu'il y a deux types, il y a Mario et Luigi, et que tu peux jouer en multi. Hein.
Ça leur fait un petit 4,5 millions dans la poche. Quoi.
Et oui. Et Luigi, c'est 18 000. Je trouve.
Pas sûr,
attends, tu as genre juste une bagnole du coup?
Ouais, une bagnole plus le jeu.
Pour 100 balles.
Mais c'est naze. Enfin, tu fais comment pour faire du multi si t'as pas d'autres bagnoles?
Tu peux pas.
Tu payes 100 balles par jour. C'est trop naze.
Faut payer deux bagnoles.
Mais, mais sachant que l'idée, c'est que tu peux faire complètement...
Mais attends, si t'as 7 potes qui ont tous une bagnole...
Je ne sais pas si t'as pu monter jusqu'à autant.
Est-ce qu'on pourrait faire ça en vrai?
Je ne sais pas. Au pire, t'achètes les robots masters de DJI, non, ça marche bien aussi.
Un truc, on a tous
on fait
permis.
Du karting, hein. Ouais, voilà.
On fait du permis, on va sur le parking du Auchan, on fait ça, PTDR. Bah et oui. En fait, l'idée, c'est que tu peux tracer ton propre circuit. Genre, tu vas placer 4 anneaux, et pour l'histoire en tant que développeur, quand tu développes un jeu de course, c'est souvent comme ça, tu vas placer 4 waypoints ou plusieurs waypoints qu'il faut passer dans l'ordre pour valider l'avancement du circuit. Comme ça, ça évite que tu fasses et t'avances, tu recules. Et c'est ces trucs-là que tu peux baiser avec les bugs et tout ça. Souvent, c'est contourner les trigger zones.
Du genre faire une escalade, escalader une montagne avec une moto Koopa.
C'est ça, et tourner en boucle autour parce que tu vas trigger les zones.
Et on la rêve, je vous aime.
Ouais, c'est un des bugs de Mario Kart 8. Yes. Et des trucs comme ça. Et même pareil. Un des trucs où, sur les gorges Wario dans Mario Kart 8 aussi, tu fonces, tu vas trigger la trigger zone et après tu retournes et tu as fini ton tour. Et du coup, tu vas placer ces portes et après tu vas relier en roulant avec ta voiture, relier les trucs et faire ton circuit. Et après, tu vas jouer contre des ennemis en réalité virtuelle, enfin en réalité augmentée. Ça a l'air ouf, ça a l'air trop bien. Et
autant faire un Mario Kart en VR, ça doit être encore plus fun. Genre, t'achètes vraiment un siège.
Ça existe.
Ça m'étonnerait.
T'en as au Japon. C'est Capcom qui l'ont fait.
Tu as un casque VR associé avec ce truc.
Bah ouais. En fait, ça existe déjà. Ça s'appelle Nintendo Labo Kit VR que j'ai payé, que j'ai et qui est vachement bien. En vrai, c'est potable. c'est même pas une blague. Et la réponse. Non, en vrai, ça coûtait pas trop cher. Je l'ai eu pour 30 balles, je crois.
30 balles pour un putain de casque VR en carton. Et encore, c'est que le carton.
Arrête-toi, hein, on te connaît.
T'as payé un pull Yoko 80 balles, fais pas chier.
Voilà.
Moi, je l'ai renvoyé pour l'échanger parce qu'il était trop petit.
Et la réponse sur est-ce que ce sera bien ou pas, ce sera quand les journalistes qui auront eu accès. Il y a eu aussi du OSEF, des trucs dont on s'en contrecarre le cul. Par exemple, du merch beaucoup trop cher avec une tête de Mario dessus. Des événements dans Mario Kart Tour, donc du OSEF. Un Splatfest dans Splatoon 2. Champignons contre étoiles avec des t-shirts aussi achetables, un événement dans Super Smash Bros, donc on s'en bat les couilles, et si j'avais l'argent pour, je l'aurais acheté, c'est des Lego Mario.
Oui, je les ai vus.
Des Lego Mario,
je les ai tous vus.
Et le prix est même c'est pas abusé, 60 balles le kit de base.
Ouais, mais enfin, il y a trois.
Ouais, mais les éléments, non, ils interagissent entre eux. C'est
le,
bien.
Le kit de base, il est quand même assez complet.
Et le Mario, il a un écran lumineux.
Il est Bluetooth, le Mario.
Et quand il est éteint, il fait vachement flipper quand même.
Oui.
Oh non.
Il coûte 60 balles.
Mon argent, non.
Voilà.
Non.
Petite anecdote, dans ce pack de Lego, t'as un Mario avec les yeux et la bouche qui s'allument. Quand c'est éteint,
c'est noir.
Ses yeux, ils sont plus sombres que ton avenir.
c'est tout fait. Putain, l'âme de Balkany, pardon. L'âme de Benalla, on va éviter de taper tout le temps sur la même personne. Et le moment qui m'a fait un petit peu hurler et qui m'a fait un petit peu plaisir en tant que fan, la collector Super Mario 3D All-Stars, qui va nous permettre de jouer à Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy sur Switch.
Juste pour Sunshine.
Je l'ai acheté pour 64 et Sunshine que j'avais toujours pas fait.
Ouais, 64, il est génial.
Et Galaxy que j'ai envie de refaire et qui est très bien. Galaxy, on peut se dire aussi que Nintendo a fait Mario Galaxy 2, PTDR, qu'est-ce que c'est ? Alors que même s'il n'a pas l'envergure de Mario Galaxy et l'histoire de Mario Galaxy, reste un jeu de plateforme Mario très agréable à jouer.
Même après, il pouvait pas tout mettre dans le même truc.
C'est des jeux Wii. Hein. Les jeux Wii, ça tournait sur une disquette. Hein. Ouais. Genre, littéralement, tu regardes la RAM de la Wii et tu regardes la taille des cartouches, ça passe.
Il n'y avait pas genre 500 mégas de stockage.
Je sais plus combien, mais c'est ridicule. Et en fait, le truc, et c'est là que la petite carotte arrive, c'est que déjà, c'est une édition collector, donc limitée dans le temps. En fait, l'édition en boîte, elle sera produite et disponible que jusqu'au 31 mars. Et tu peux acheter le jeu en démat que jusqu'au 31 mars. Après,
d'accord.
Les personnes qui auront acheté le jeu l'auront. C'est pour ça que je l'ai pris en boîte, comme ça. Si les serveurs de Nintendo me disent « nique ta mère », au moins je l'ai encore. Mais après, le 31 mars, c'est plus dispo et ça va finir à 300 balles sur eBay. Et en fait, le truc, c'est que il y aura... les stocks sont quand même assez potables au Day One en France, en termes de gens en boîte. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est à peu près 200 000, je crois. Donc ça va encore.
Ils visaient plus haut, je pense.
Oui, mais c'est pour le Day One, ils vont en refaire d'autres. Oui. Mais sachant qu'ils ont aussi amélioré le motion control pour que tu puisses jouer avec les Joy-Con à Mario Galaxy sur Wii.
Wow.
Que Mario Sunshine n'est pas compatible avec la manette de GameCube.
Oh non.
c'est
Mais dis donc, ce serait pas complètement con.
C'est un petit peu.
Et comment on va faire?
Tu joues avec
les Joy-Con.
Non, non, non.
Tu t'achètes une manette pro.
Je reprends ma GameCube, hein. Ciao les mecs.
C'est con, les jeux de Switch fonctionnent avec la manette GameCube, les jeux GameCube ne fonctionnent pas avec la manette GameCube.
Oui.
Nintendo, quoi.
Et sachant qu'on peut espérer, vu qu'ils ont réussi quand même à refaire le pointeur de la Wii sans la barre infrarouge de la Wii grâce aux Joy-Con qui sont quand même très précis et c'est impressionnant, bah moi j'espère le retour de Skyward Sword HD qui avait leaké sur Amazon avec un autre jeu qui était déjà aussi leaké bien avant. Donc je me dis, et PTDR, pourquoi pas ? On n'a pas eu d'annonce cette semaine, donc allez-y, faites péter. Ça serait cool.
Question. Ils sont pas un peu niqués, ceux qui ont la Switch Lite ?
C'est juste les moments où il faut pointer, où ce ne sera pas dispo pour eux. Tout le reste du jeu est jouable avec la manette.
Good luck.
Et un truc à dire, du coup, c'est qu'en fait, s'ils le mettent dispo jusqu'au 31, c'est parce que déjà, ils savent qu'ils peuvent se le permettre. Et deuxièmement, c'est qu'ils disent on veut bien donner le jeu aux fans, mais il faut qu'on puisse le garder parce qu'ils vont nous faire une collector, je pense, genre un remake ou au cas où ils veulent faire un remake. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de. Qu'ils ne vont pas sortir. Et il faut savoir aussi que tu pourras retrouver l'OST des jeux, donc je pense pas complète, mais l'OST des jeux sur la Switch et tu pourras l'écouter là-dessus.
On branchera ça à l'enceinte.
Sachant que l'OST n'est toujours pas dispo sur Spotify, ce serait bien que Nintendo vous nous mettiez les OST sur Spotify, putain.
Le retour de Wii Music.
Oh,
non, non.
Ça, c'était tellement le feu.
Et voilà. Et donc en gros, il y a eu pas mal d'annonces plutôt sympatoques,
sympatoques, elles sont en toc les annonces.
Je sais plus parler. Il y a plusieurs annonces pas mal sympatoches. Donc moi, en tant que fan, je l'ai pris. Donc oui, c'est un peu con parce que j'ai déjà Mario Galaxy, Mario Sunshine, Mario 64. Tu les as en émulateur et en plus, tu peux les avoir forcément plus beaux parce que t'as des packs de texture. Mais je m'en branle. Je suis un collectionneur. J'aime bien ça. Je suis un pigeon. Et surtout, ça fait plaisir de pouvoir y jouer. Je sais que
mais
je les finirai.
Dans une cartouche, en plus, c'est 4 jeux.
3.
Et
combien,
tu. 50.
Okay. Ouais, ça va, c'est
ce qui est raisonnable parce que ça reste quand même. C'est pas 3 petits jeux indés. C'est 3 jeux qui, à chaque fois, une durée de vie de 20 heures, quoi, chacun.
Et ça reste des jeux Nintendo.
Parce que parle bien dans ton micro.
Oui, bah, je parle dans le micro.
Non.
Si.
De toute façon, on ne nous entend pas.
Si, on t'entend.
De toute façon, on ne nous regarde pas.
De toute façon, on ne nous regarde pas.
Qui fait mal.
Mais oui, le prix n'est pas forcément abusé. Même le prix de la Game & Watch, c'est 50 balles. Il y a juste le prix de la bagnole qui est assez cher. Mais d'un autre côté, tu te dis, bah, c'est de la technologie, pourquoi pas.
On ira sur une partie de
carte. Mais voilà.
Après, je suis en train de me dire, est-ce que les textures sont refaites ou pas pour avoir une meilleure qualité quand même.
Sur Sunshine, le truc, c'est qu'ils ont agrandi l'écran. Il n'est pas étiré, il est vraiment agrandi, donc tu joues plus en 4 tiers, donc je pense que ça va être pareil pour Mario 64. Les jeux, sauf Mario 64, tournent en 1080 sur le dock et en 720, quoi qu'il arrive, tout le temps. Le jeu est plus moche qu'en émulation avec un pack de textures, mais on s'en fout. Et,
forcément.
Et il a été lissé avec des textures refaites, alors c'est plus des polygones moches pour Mario 64, c'est des polygones un peu moins moches, un peu arrondis. Ça reste dégueulasse, mais bon, on s'en fout.
C'est des cercles, en fait.
Ouais, c'est ça, mais les jeux ont l'air quand même potables et moi je me dis bah, l'année prochaine c'est les 35 ans de Zelda. Si vous mettez Twilight Princess Ocarina of Time et allez, Wind Waker sur une cartouche, je dis oui. Et si vous faites un Skyward Sword HD, voilà.
Ah, 150 euros.
Non, 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 mais n'oublions pas que l'année prochaine il y a Horizon Zero Dawn 2 qui sort et la PS5 et que l'un est une de mes licences préférées et le une console que je vais peut-être m'acheter. Donc. De quoi ?
Parle dans ton micro.
Je ne parlerai pas dans mon micro.
Mais le Horizon Zero Dawn qui est un très bon jeu. Et voilà, c'était la fin de ma chronique sur Mario et les 35 ans. Et au final, Nintendo fait « Eh vas-y, la Switch, elle imprime de l'argent en fait !» Tout seul. Et
moi, j'attends le jour où la Switch, ce sera une console collector. Une console rétro.
Tu vas attendre longtemps.
Mais en plus, le truc, c'est que honnêtement, moi, j'annonce un truc. Ils ont dû bidouiller un code en interne pour porter automatiquement les jeux de Wii U sur Switch. Parce qu'ils en ont 4, ils ne vont pas avoir recodé les 4 jeux. Ils ont un code en interne qui porte de l'un à l'autre. Et j'annonce, on aura tous les jeux importants de la Wii U sur Switch. Voilà.
Oui.
Donc, Twilight Princess HD et The Wind Waker HD, ce serait pas mal. Pff, en vrai, je m'en fous, je les ai sur Wii U.
On attend tous Call of Duty sur Switch.
Oh là là là.
Ta gueule. Et c'est le dernier moment de cette émission avec les coups de cœur. Est-ce que tu as un coup de cœur, Yvon ?
Est-ce que Emily, tu commences ?
Allez, vas-y, commence.
Commencez-vous, parce que moi, j'en ai pas.
Mais si, t'en as.
Tu commences.
Ok. Bah moi, je vais vous parler d'un test de grossesse.
Yes, grosse ambiance.
Dit comme ça, c'est rigolo. Non, mais en vrai, c'est un peu rigolo parce qu'en fait.
Le pire, c'est que Jules est tombée enceinte.
Voilà, coucou, c'est pour ça mon poids en fait. Non, j'ai pris 20 kilos pendant le confinement, bordel de merde. Et j'en ai reperdu 10 depuis.
J'en ai perdu depuis, voilà.
J'en ai perdu 13. Et du coup.
Dire, je pense.
Merci, ça fait plaisir. Et du coup, il y a une personne qui s'appelle Faune sur Twitter, F-O-O-N-E, qui faisait déjà, c'est une personne qui a fait des claviers un peu à la con. Et genre, qui a tweeté depuis des claviers à la con. Genre, il a tweeté depuis un clavier d'ordinateur pour enfants, donc ça va encore. Il a tweeté depuis un clavier où, en fait, pour écrire des lettres, tu dois écrire leur code hexadécimal avec des trucs on ou off. Et il a fait plein de claviers à la con comme ça, et ça mourait de rire. Il a fait aussi un clavier où, en gros, tu dois appuyer du nombre de fois que la lettre est dans l'alphabet, sur la table à ski. Donc, tu dois appuyer 200. C'est très drôle.
Oh la vache.
Et c'est quelqu'un qui bidouille pas mal en électronique. Et il a décortiqué un test de grossesse. Donc, maintenant, je sais ce qu'il y a dans un test de grossesse électronique. Puisqu'un test de grossesse classique, c'est en gros, tu urines sur une bande avec un principe actif et après, tu vois une forme apparaître en fonction, je crois, c'est à partir des hormones ou un truc comme ça.
C'est de la couleur, en fait.
Ouais.
C'est juste la couleur qui change en général.
Et bah pour le test de grossesse électronique, c'est ça. Sauf qu'en fait, au lieu de te montrer la couleur, on a mis une petite diode et un petit capteur électrosensible pour voir si la couleur apparaissait.
Wouhou !
Donc, ils vendent ça 20 balles de plus. Allez.
T'injectes des nanorobots au passage.
Oui, c'est ça, de ouf. C'est ça. Toi, écoute, tu devrais écouter le podcast... comment ça s'appelle, putain ? Les théories du complot. La mécanique du complotisme. Et en gros... Il te l'a décortiqué le test et il a réussi déjà à hacker la puce. Et maintenant, en changeant l'écran, il a réussi à faire tourner Doom. Donc on peut dire maintenant, Doom tourne sur un test de grossesse. Sur un écran dégueulasse et en deux couleurs, mais Doom tourne sur un test de grossesse.
Non, mais à partir du moment où il y a un truc qui a un semblant de pixel, bah, y a Doom qui tourne dessus.
Doom tourne sur tout, Doom sur un repos de cuisine, Doom tourne sur un Raspi. Et techniquement, en fait, dans un test de grossesse, il y a à peu près la puissance de calcul est à peu près autant que celle des premiers PC IBM.
Wouh !
Et je pense à peu près la même puissance que ce qui a envoyé des gens dans la Lune. Oui. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Y a beaucoup de personnes qui, sur Reddit, lui ont piqué son contenu... En mode, regardez, il y a un joueur qui a fait tourner Doom sur un test de grossesse sans le notifier. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à Faune sur Twitter et à le soutenir sur Patreon. Il fait vraiment des trucs et des bidouillages très intéressants et très instructifs si vous aimez un petit peu l'électronique. Et vas-y, Yvan, tu vas nous parler d'un jeu où j'ai envie de t'insulter.
Moi aussi, je t'aime, Jules.
Ah.
Donc moi, mon coup de cœur, pas en ce moment de la semaine, mais les derniers jours qui sont passés, c'est Fall Guys, bien entendu. Fall Guys Ultimate Knockout. Je le fais bien ?
Oui.
Ouais. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, même si vous êtes à peu près deux, Fall Guys Ultimate Knockout, c'est un jeu multijoueur donc, qui a été développé par Mediatonic et publié par Devolver Digital, qui a été annoncé à l'E3 2019 et qui est sorti le 4 août 2020 sur PS4 et PC. RIP, les joueurs d'Xbox, on vous aimait, et pareil pour la Switch. Sachant que d'après les développeurs ont eux-mêmes dit qu'il n'y aurait pas sur Switch et Xbox.
Bah, vu le netcode dégueulasse de la Switch, ça ne m'étonne pas.
Mais bref, ouais, c'est franchement... en vrai, on pourrait un peu le nommer en tant que platformer semi-battle royale.
Oui, c'est un battle royale qui reprend le principe des jeux style Takeshi's Castle, les jeux japonais un peu à la con, à Last Total Wipeout en fait.
Le pire, c'est qu'il y a vraiment un jeu japonais qui représente exactement ça quasiment.
Bah oui, c'est inspiré de Takeshi's Castle.
On oublie les tic-tac avec des bras, bien entendu.
Oui.
Mais bref, un bon jeu, facile. Et en plus, qui est facile à contrôler, je trouve.
Non,
au bout de 2 heures de jeu, j'ai fait déjà un top 1. Ah, c'est alors que Jules, au bout de 4 heures de jeu, il n'arrive toujours pas à finir le premier niveau.
Oui, mais quand d'un côté, au bout d'un niveau, t'attends un quart d'heure parce que t'as l'autre qui avance. N'y jouez pas avec des personnes qui n'ont pas le même niveau que vous, sinon c'est chiant.
C'est un jeu ultra fun, extrêmement rageant et que du plaisir si on oublie les cheaters. Même si l'anti-cheat des développeurs, mais même si on a l'impression qu'il ne fonctionne pas, bah en fait il fonctionne, mais seulement à la fin de la game en fait. En gros, quand il y a un cheater qui est détecté dans une partie, la partie se déroule normalement et une fois que la partie est finie ou que le cheater finit sa partie, quoi, bah il est banni. Ce qui est un peu con parce qu'ils pourraient le kick pendant la partie.
Oui, mais bon.
Et apparemment, ils ont dit qu'ils sont encore en train de travailler sur l'anti-cheat et qu'ils sont en train de l'améliorer. Donc
Mais les anti-cheats, c'est une des choses les plus difficiles à faire en même temps.
Oui. Bah, capter un mec qui va à 200 km/h sur la map, alors que t'as déjà des bugs de collision qui le font naturellement.
C'est ça, c'est le grand doute du éviter de faire des faux positifs.
Parce que, exemple tout con, il y a des endroits où t'as des trucs qui tournent et qui te font valser à 3 km. Bah, là, par exemple, le jeu peut capter que tu étais en train de fly à 200 km/h.
Oui, c'est vrai.
C'est très marrant. Mais bref, très bon jeu, je conseille. Il coûte, je crois, 20 balles sur Steam.
Et 15 balles, enfin 18 et 30, balles sur Humble.
Et 10 balles avec le pack collector, avec toutes les, tous les skins et tout ça. Qui sont pas débloqués, hein, il faut quand même les acheter.
Ouais, du coup, je vais vous parler juste d'une BD que j'ai achetée récemment qui s'appelle DNK de John Pham. C'est une BD qui est super choupie, déjà juste au niveau des couleurs, et puis qui a un style assez enfantin, rétro, en mode comics strip, vraiment à l'ancienne. C'est super assidu au niveau des couleurs. Et bah, en fait, ça raconte l'histoire de deux jeunes femmes, toutes chippies, enfin toutes chibies mignonnes, qui ont en fait une vie hyper hardcore. Et donc la vie, elle est dépeinte d'une manière assez ironique. C'est toujours assez décalé comme ça, et c'est vachement cool. Et à l'intérieur du bouquin, on a un vinyle qui est offert avec, et plein de petits stickers marrants, et aussi une mini version d'un comics en fait dont il parle à l'intérieur de la BD du coup. Donc c'est vraiment trop fou. Et la musique qu'il y a sur le vinyle est super stylée aussi, c'est de l'espèce de synthwave comme ça, vachement cool. En plus, c'est écrit extra rare vinyle sur YouTube, hein, c'est juste trop marrant quoi. Et ce qui est marrant aussi, c'est que sur la dernière page, en fait, il se moque justement de ce vinyle en disant « Mais au fait, pourquoi t'as acheté un vinyle? On n'a même pas de machine pour le faire tourner. » Et il y a l'autre personnage qui répond « Non, mais c'est pas grave, moi j'adore ça, les vinyles. » Et puis ils sont sur une petite colline en regardant le ciel, et l'autre personnage sort « Je te comprendrai jamais. » Et en fait, juste à côté de cette page, cette double page de BD, on a justement le vinyle qui est juste là. C'est vraiment trop bien fait et trop bien drôle. Enfin, c'est super drôle et trop bien foutu, quoi.
Tu peux juste nous rappeler, du coup, le nom de l'auteur et le nom du livre?
Alors, le nom de la BD, du coup, c'est JNK, genre J-N-K. Et c'est John Pham qui l'a écrit.
Ok.
Et je suis en train de faire un fan art sur ça en ce moment.
Bon courage, amuse-toi bien.
Merci.
Et c'est la fin de cette émission. Ça va, on est dans les temps pour cette première. Ce retour de la rentrée. Merci aux personnes qui ont été là, merci aux personnes...
Il y a eu des personnes ?
Il y a eu des gens ?
Une personne. merci aux personnes qui nous ont donné. Merci des...
Merci à la personne qui nous a écoutés.
Qui était probablement moi.
Merci aux gens qui nous ont donné sur Ulule l'année dernière pour financer tout ce beau matos. Ouais. Merci encore une fois à tout le monde. Merci à ceux qui nous écouteront en podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter @alconos_podcast, sur YouTube. Et voilà, on vous fait des bisous.
Des bisous.
Et à plus.
Ciao, ciao.
Ciao, à plus.